Bonjour à vous toutes et vous tous, c'est Clotilde au micro de Canal M, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi pour vous présenter l'émission Le National. Qu'est-ce que le National? Ah, vous n'êtes peut-être pas encore habitués. Eh bien, sachez que le National vous permet, nous permet de réentendre des segments qui font partie d'émissions qui ont été programmées tout au long de la semaine et que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir entendre ou peut-être avez-vous envie de les réentendre. Eh bien, ce sont tous ces extraits qu'on colle ensemble le vendredi et qui forment le National. Ce sont bien sûr, puisque ça s'appelle le National, des sujets d'intérêt pour tous les francophones qui vivent au Québec et au Canada. Alors, on y va tout de suite avec un premier sujet. Vous le savez maintenant, Marianne Paquette anime tous les lundis à midi, et c'est en reprise à 17h, une émission qui s'appelle Portrait de famille. Eh bien, cette semaine, Marianne recevait, entre autres, Marie-Pierre Bellil. Marie-Pierre Bellil a 15 ans. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que de vivre avec un membre amputé, puisqu'elle le vit au quotidien. Il sera question d'elle dans l'entrevue qui suit, une entrevue que Isabelle Vermette a accordée à notre amie Marianne Paquette. Isabelle Vermette est coordonnatrice à l'Association des amputés de guerre et nous parle de l'accompagnement des familles.
Isabelle Vermette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice à l'Association des amputés de guerre. Marie-Pierre Bellil, pas pire ambassadrice pour votre association.
Elle est même très excellente. On l'utilise vraiment souvent.
Isabelle, plusieurs programmes au sein de l'Association des amputés de guerre et en même temps un contact qui est assez étroit avec les familles. Marie-Pierre le disait, depuis qu'elle a 18 mois, vous accompagnez sa famille, vous êtes au cœur du quotidien. Quand les familles arrivent chez vous avec des petits bébés, comment vous les accueillez? Ils sont dans quel genre d'état d'esprit?
Bien, tout dépend de la cause de l'amputation, mais si on prend par exemple comme Marie-Pierre, elle est née avec une malformation, déjà à l'hôpital maintenant, les parents peuvent obtenir de l'information et notre formulaire d'inscription. Et quelques jours après leur retour à la maison, ils vont recevoir d'abord un document écrit avec tous les services que l'on peut offrir. Et quelques mois après la naissance de l'enfant avec une malformation, moi, je vais entrer en communication avec eux par notre programme des mères solidaires, mm-hmm. qui, dans le fond, va leur offrir un soutien moral et qui va pouvoir leur permettre, s'ils le désirent, échanger avec une famille qui est déjà passée par là. Donc, répondre aux premières questions, là, est-ce que mon enfant va aller à l'école, va faire du sport, va-t-il travailler, conduire une voiture? Mm-hmm. Donc, on va pouvoir, avec ces échanges-là, répondre aux questions, si on veut, primaires et, à travers tous les autres programmes, soutenir cette famille-là tout au long de la croissance de l'enfant.
Chantal, vous avez bénéficié de ce programme Mère solidaire?
Oui, tout à fait. Puis une chance, nous, ça nous a beaucoup aidé parce que lorsqu'on voyait grandir Marie-Pierre, bien, on se posait des questions. Puis on appelait souvent aux amputés de guerre, puis ils nous ont mis en jumelage avec des parents qui vivaient les mêmes situations que nous, puis ça nous a beaucoup aidés.
Oui, j'imagine qu'il y a quelque chose d'apaisant.
Tout à fait, ça aide, là. Oui, oui. Parce que tu dis, ils sont passés par là, ils nous comprennent.
Oui. Isabelle, bon, dans le cas de Marie-Pierre, c'est une amputation, un handicap, malformation à la naissance. C'est pas toujours le cas et d'ailleurs, amputée de guerre fait beaucoup de sensibilisation pour prévenir des accidents.
Vous avez raison. Dans les membres chez nous, je vous dirais qu'on a environ 60 % des gens qui vont être comme Marie-Pierre, de naissance. Dans les 40 % qui restent, on va séparer ça 50-50, donc 20 % des cas, ça va être de raison médicale, une maladie, un cancer, une malformation des os, donc chirurgie, on ampute. Mais le 20 % qui reste, c'est des accidents. Mm-hmm. Et dans ces accidents-là, la machine qui cause le plus d'accidents chez les enfants aujourd'hui, malheureusement, c'est la tondeuse à gazon.
Ah oui!
Parce qu'on en retrouve dans toutes les maisons et on oublie souvent que c'est une machine qui est dangereuse, qui a un code de sécurité à suivre, puis on l'utilise pendant tout l'été à toutes les semaines. Donc, on vient à être habitué à
ça. Ça devient banal, oui.
Exactement. Et le programme Jouer prudemment, qui a été créé en 1978, a été créé justement à la suite de lettres reçues de parents qui avaient perdu leur enfant mort dans un accident et qui voulaient sensibiliser les autres enfants aux dangers qui les entourent. Donc, Jouer prudemment a vu le jour. Et maintenant, avec Jouer prudemment, à travers les défilés avec notre char allégorique ou par l'entremise de présentations que Marie-Pierre anime parfois dans les écoles, elle va aller parler, oui, de sa différence, mais elle va parler aussi de l'importance de repérer les dangers avant de commencer à s'amuser pour éviter ces accidents-là. Donc, c'est une façon, si on veut, d'intervenir auprès des enfants pour leur allumer des lumières là, pour qu'ils regardent les dangers autour d'eux.
Marie-Pierre s'implique dans le programme Les Vainqueurs. En quoi consiste ce programme-là?
Dans le fond, le programme Les Vainqueurs existe depuis aussi plusieurs années et il a été créé pour venir en aide de façon financière aux besoins des enfants amputés. Les enfants qui en font partie sont depuis leur naissance ou depuis l'accident jusqu'à temps qu'ils vont devenir adultes au programme pour adultes amputés. Et ce programme-là, les vainqueurs vont leur offrir des séminaires où ils vont pouvoir se rencontrer une fois par année pour, comme Marie-Pierre disait, là, rencontrer d'autres jeunes qui ont vécu des difficultés par rapport à leur amputation. Ils vont pouvoir échanger aussi avec des familles à travers le Québec. On a des séminaires dans chaque province du Canada. Donc, au Québec, c'est comme ça qu'on peut se rencontrer. Et le programme Les Vainqueurs est vraiment le programme dans lequel on inscrit tous les enfants amputés. Et la philosophie de ce programme-là est « les amputés s'entraident ». Donc, c'est vraiment par discussion, échange, qu'on va trouver des trucs d'un à l'autre.
Marie-Pierre, c'est conseillère junior. C'est comme ça qu'on t'appelle au sein des amputés de guerre. Tu offres des conférences. Ça t'apporte quoi de faire ça?
C'est sûr, c'est valorisant de pouvoir, toi, t'es passé par là, puis de pouvoir aider un jeune qui vit les difficultés que tu vis pour essayer que ça soit plus facile pour lui de passer à travers ces étapes-là.
Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des périodes des questions à la fin des conférences?
Oui, tout à fait. Il y en a. Dans les séminaires, on est là tout le temps. Fait que les gens peuvent venir nous voir. Dès qu'ils ont une question, nous, on est là pour y répondre. Il y a aussi des adultes plus vieux aussi. Et à la fin, il y a une séance de questions aussi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des questions récurrentes, c'est-à-dire qui reviennent très, très souvent?
Oui. Là, j'ai pas d'exemple.
Isabelle, vous en avez?
Bien, souvent, dans les présentations, quand on va dans les écoles, souvent, les élèves de maternelle, là, des fois, ils ont peur de jouer avec un enfant amputé parce qu'ils ont peur que ça s'attrape comme un rhume.
Ouais.
Fait que souvent, quand ils vont en présentation dans les écoles, là, je leur dis toujours que la première question, là, c'est... ça ne s'attrape pas. On ne perd pas un bras ou une jambe parce qu'on va jouer avec un enfant amputé. Sinon, souvent, les questions qui vont revenir, c'est pourquoi tu es faite comme ça? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? Les gens vont penser que les personnes amputées ne sont pas capables d'avoir des activités régulières. Comme Marie-Pierre va avoir 16 ans, oui, elle va conduire une voiture. Est-ce que sa voiture va être adaptée? Peut-être, peut-être pas. On va voir rendu là, mais c'est des défis quotidiens, juste de répondre à la question tous les jours. C'est un défi quotidien pour Marie-Pierre et pour tous les autres enfants amputés.
Isabelle, vous êtes, vous aussi, vous vivez avec une amputation, mais en fait, vous êtes vous aussi une maman. Donc, vous êtes bien placée pour comprendre, Chantal. Est-ce que il y a des conseils aussi que vous pourriez donner à des mamans qui donnent naissance à des enfants qui vivent avec une malformation?
Des conseils. Moi, mes enfants ne sont pas amputés. Des conseils. Je vous dirais, les questions que les nouvelles mamans vont avoir ou les mamans dont l'enfant va avoir une amputation à la suite d'un accident... Il faut passer par là absolument. Mais le conseil, je vous dirais, là, c'est de nous appeler. On est là pour vous aider. Je ne sais pas, Marie-Pierre, si vous êtes d'accord avec moi, mais Chantal, je sais qu'elle l'a déjà dit. Les amputés de guerre, c'est une deuxième famille. On grandit ensemble. Moi, j'ai connu Marie-Pierre. Elle était toute jeune. J'étais jeune aussi. On a grandi ensemble. Donc, on devient des cousins, des cousines, on se connaît et ça apporte un grand soutien à ces gens-là. Donc, c'est vraiment important. Oui, on porte les amputés de guerre comme nom, mais les gens qui en font partie aujourd'hui, c'est presque tous des enfants qui ont des malformations ou des amputations dues à des traumatismes. Fait que c'est vraiment un cercle d'amis.
Oui, voilà. Et vous pouvez aussi être l'image qu'il est possible d'être mère, même vivant, avec une amputation.
Tout à fait. Puis quand Marie-Pierre va être rendue adulte, elle va avoir des questions, elle aussi, de « Moi, quand je vais être mère, est-ce que je vais pouvoir faire ça? » Je suis passée par là. Et comme Marie-Pierre a présentement, en tant que conseillère junior, transmet ses conseils aux plus jeunes, mais moi, j'ai eu des adultes plus vieux que moi qui m'ont transmis les conseils. Puis si on veut vraiment, on peut. Qu'on soit amputé ou non. Il faut juste vouloir arriver à notre but.
Amputéesdeguerre.ca. En terminant, Isabelle, il y a une campagne de remerciement aussi. Est-ce qu'on est à la veille de cette campagne-là?
Bien, ce qui est important de savoir pour les gens, c'est qu'on vit des dons du public. Donc, notre campagne des étiquettes adresses s'en vient bientôt. Là, ça va être en novembre. Les gens qui ont contribué à notre service des plaques porte-clés en effectuant des dons, ils vont recevoir des étiquettes adresses saisonnières. Les gens qui veulent avoir plus de détails sur ces deux campagnes-là, qui aient visité notre site web, vous venez de donner l'adresse. Il y a toutes les informations où ils peuvent nous appeler. On a un bureau ici au centre-ville de Montréal. Ils peuvent facilement aussi passer nous voir.
Isabelle Vermette, vous êtes coordonnatrice à l'Association des amputés de guerre. Merci beaucoup.
Merci.
Oui, je suis d'accord avec vous. Très belle entrevue. Puis ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Si vous désirez en savoir plus, vous savez que vous pouvez visiter amputedeguerre.ca. Et pourquoi pas essayer de donner un petit peu. C'est vraiment essentiel pour ces gens qui travaillent fort pour que tous les gens qui connaissent cette situation voient leur vie s'améliorer au jour le jour.
J'inviterai l'enfance à s'attarder le temps qu'il faut, qu'elle empoche des images pour les soirées d'hiver, pour les longues, longues heures de l'adulte qui n'en finit pas de pousser sur l'ennui. Deux clairons dans tes bagages, un air de flûte, une botte de légumes, du vin, le sourire de quelqu'un mort, une trace qui mène à l'île perdue, un anneau d'or, un masque trop. Tes frères sont morts, quand présent est le vide et que la nuit demeure, les rêves sont bien nécessaires. Et les enfants nouveaux poseront dans la main de l'homme seul les leurs.
C'est bon pour la santé. Et c'est encore avec Marie-Anne Paquette qui anime cette émission, cette fois-ci, le mercredi à midi et en reprise à 17h. Qui n'a jamais eu un rendez-vous avec un médecin? Bon, éventuellement, c'est vrai que dans les cliniques sans rendez-vous, on peut avoir un rendez-vous, mais on ne sait pas quelle est la personne que nous allons rencontrer. Mais ordinairement, en principe, que ce soit avec un médecin ou avec un spécialiste, ça nous est arrivé à toutes et à tous. Mais est-ce que nous nous sommes bien préparés? Est-ce qu'en sortant du cabinet du médecin, on ne s'est pas dit « Ah, zut, j'ai oublié de lui parler de ça. Ah, là, 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 là. Puis là, ça va me prendre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous, etc. » Bref. Voici maintenant quelques conseils pour bien se préparer à un rendez-vous médical avec France Cardinal Remette.
J'ai en face de moi France Cardinal Remette. Bonjour France.
Bonjour.
Chroniqueuse ici qui nous parle d'un sujet que je trouve très outillant pour les gens qui nous écoutent. Personnes âgées les proches de personnes âgées, mais en même temps, toute personne qui a affaire à ce fameux système de santé que l'on a ici, comment on se prépare à un rendez-vous médical. On va aborder plein de questions aujourd'hui, France, par rapport à ce sujet. Mais j'ai l'impression que de bien se préparer à un rendez-vous médical, c'est de plus en plus important.
Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai fait ma recherche et puis je me suis rendu compte, bon, le CHUM a émis des données qui m'ont vraiment renversée. On dit que plus de 50 % de la population est atteinte d'une maladie chronique en Amérique du Nord. Bon, ça, on s'en doutait, on en parle beaucoup. Alors, on parle du diabète, des maladies respiratoires chroniques, des affections cardiaques, le cancer et autres. Mm-hmm. Mais 80 % des utilisateurs d'Internet recherchent des informations reliées à la santé sur le web. Oui. Pourquoi? Pour se renseigner, pour se soigner soi-même ou pour valider un diagnostic, se préparer à poser des questions. Bon, on le disait pas, mais tout de même.
Se faire peur un petit peu.
Peut-être, mais on voit qu'il y a un intérêt quand même hein, par rapport à sa propre santé.
Oui.
Ensuite, bon, plus de 50 % des personnes qui consultent et qui ont un plan de traitement ne le respectent pas ou peu. Alors, les ordonnances médicales, entre autres, là, sont oui. peu ou pas respectées. Pourquoi? Hein, la grande question, mais pourquoi? Alors, écoutez, trop souvent, là, parce que la personne se sent peu impliquée lors de la consultation médicale, malheureusement, les gens sont restés dans le modèle du médecin paternaliste.
Oui.
Nous, on a évolué dans le milieu de la santé. On est allé vers l'approche centrée sur le patient. Mais maintenant, on s'en va vers une nouvelle approche, le patient partenaire. Alors, le CHUM, entre autres, est un grand leader dans cette nouvelle approche où on implique la personne vraiment à prendre des décisions par rapport à ce qui va se passer pour sa santé, ses soins, ses traitements. Des fois, il y a des options de traitement, alors on l'invite ouais. à choisir. Évidemment, il y a d'autres milieux qui le font, là, pas seulement le CHUM, mais moi, je parlais du CHUM parce qu'ils ont fait des documents. Je suis impliquée, moi, avec des patients partenaires. Et ils vont même plus loin, ils ont des patients ressources. Alors, les patients ressources les conseillent. Alors, c'est des gens qui sont passés à travers le système de santé et qui ont vu des écueils, des difficultés. Alors, ils les expriment et le CHUM travaille avec eux pour trouver des solutions. Alors, il y a quand même, c'est encourageant hein, d'entendre ça.
J'entendais, France, dernièrement, une médecin de famille parler de tout ce que l'on ne dit pas à notre médecin de famille, mais les mensonges qu'on ne devrait pas émettre, finalement, et qui peuvent même être dangereux pour notre santé, à savoir les produits naturels aussi que l'on consomme. On doit les nommer. Ne pas mentir sur nos habitudes de vie. Si on fume, on doit le dire. Si on boit de l'alcool, de pouvoir chiffrer la consommation. Consommation de drogue, la même chose. On a tendance aussi à mentir à notre professionnel de la santé.
Oui, oui, c'est sûrement. On observe ça à tous les jours. Par contre, comme tu le mentionnes, c'est pas la bonne route à prendre.
Mais non,
non, vraiment pas. Il faut justement prendre sa place. Et puis, les milieux sont beaucoup plus ouverts qu'on le croit. Le médecin, il voit beaucoup de personnes. On parle de consommation d'alcool, mais il y a plusieurs qui prennent un petit verre de vin avec leur repas le soir. Là, c'est plus un sujet tabou comme ça l'était peut-être il y a 30 oui. ou 40 ans. Là.
Et comme vous le disiez, de voir notre médecin d'une façon paternaliste, on n'en est plus là. Les relations ont évolué
oui.
et on peut penser que notre médecin a l'ouverture d'entendre ce qu'on a à lui
Absolument.
Dire sur nos habitudes de vie. Et quelque chose de très intéressant aussi que vous avez mentionné, c'est qu'on a le droit de faire partie prenante de ces soins de santé et de prendre notre santé en main.
Oui, c'est même dans la loi sur la santé et les services sociaux. Alors oui, mais évidemment, les milieux sont très ouverts parce que ils vont gagner. Si le client est vraiment engagé dans ses soins, bien, tout le monde gagne. Hein? C'est des solutions gagnantes. Maintenant, tu m'amènes sur un terrain, là, quand on parle des habitudes de vie.
Oui.
Évidemment, c'est une autre observation qui est faite, c'est que les gens... Même s'ils ont un diabète, un problème au niveau cardiaque, ils veulent revenir à leurs habitudes puis à leur vie d'avant.
Ouais.
Alors, dans la façon de s'alimenter, de fonctionner, les activités physiques, il y en a qui en font très peu puis n'ont pas vraiment le goût de s'engager à ce niveau-là. L'usage de tabac, on en parlait. Mais c'est important d'ouvrir là-dessus parce qu'il y a des compromis qui peuvent être faits. On peut négocier ses soins avec le médecin et l'équipe de soins. Ça aussi, c'est un avantage.
Ah oui.
Maintenant... L'autre élément qui est très important, c'est que, entre autres, quand on apprend un diagnostic qui nous bouscule intérieurement, il faut absolument prendre un temps d'arrêt pour se demander ce que l'on veut accomplir, là, puis où on en est dans notre parcours de vie, puis qu'est-ce que ça nous fait intérieurement d'avoir appris cette nouvelle-là. C'est important d'avoir ce temps d'arrêt-là, ne serait-ce que d'aller prendre une promenade à l'extérieur et de réfléchir aux émotions, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des émotions. Il peut y avoir du déni, de la colère, on peut se sentir déprimé, notre estime de soi peut être atteinte. Il y a plein de choses qui surviennent et c'est normal, c'est très normal.
Vous parlez aussi, France, du plan d'intervention. Qu'est-ce que c'est, ça?
Bon, le plan d'intervention, c'est un document, c'est notre dossier. Hein, ça s'est inclus dans le dossier, mais c'est un document officiel dans lequel vont être notées les problématiques qu'on a, les options de traitement, le traitement qui est suggéré et qui est accepté par le patient. Évidemment, tous les résultats d'analyse sont inclus aussi dans le plan d'intervention. Mais le plan, c'est surtout des objectifs à atteindre. Alors, les objectifs à atteindre, bien, il faut qu'ils soient en lien avec le projet de vie de la personne. C'est dans ces termes-là qu'on le verbalise aujourd'hui. Alors, si la personne a l'habitude, par exemple, de voyager beaucoup puis elle ne veut pas renoncer à ses voyages, bien, il y aura peut-être des compromis par rapport au rendez-vous qu'elle aura à prendre par la suite. C'est un exemple.
C'est là qu'on peut négocier. Si notre médecin nous dit, par exemple, vous devriez arrêter de fumer, si on lui dit, ben je suis pas prêt, est-ce que je peux réduire, est-ce qu'on peut s'entendre sur, bon, X nombre de cigarettes ou consommation d'alcool ou pour la nourriture, même chose, c'est le moment d'exprimer nos limites à notre médecin.
Oui, puis peut-être qu'il va arriver avec des solutions auxquelles on n'a pas pensé.
C'est vrai.
Des solutions qui sont inconnues de nous, mais qui sont bien connues dans le milieu et qui peuvent fonctionner et qui peuvent nous satisfaire.
Oui.
Alors, c'est très important, effectivement.
Il faut rappeler qu'on a ses compétences et ses habiletés de comprendre et de s'investir dans ce plan d'intervention.
Tout à fait. Et c'est nous qui sommes les détenteurs des expériences qu'on a vécues, de notre vécu antérieur par rapport à notre culture, nos habitudes familiales. Il y a plein d'éléments là, qui se sont imprégnés dans notre parcours de vie et qui vont ressortir au moment où on apprend qu'on a un problème de santé. Alors, il faut en tenir compte. Aussi, pour la visite médicale, c'est important de se faire accompagner, faire une liste, de se préparer, avoir une liste de questions qu'on veut poser. On l'a mentionné tantôt, être un partenaire actif dans ses soins, puis aussi identifier son réseau. Si on a un problème de santé chronique et qu'on a besoin de l'aide de d'autres personnes, bien, d'identifier c'est qui mes proches, c'est qui peut m'aider, puis comment ces personnes-là peuvent m'aider. Très important, on s'en va vers cet angle-là dans le futur, parce qu'on le sait, hein, la population vieillissante et les problèmes de santé chronique vont se multiplier parce qu'on vit plus longtemps. Alors, on ne parle pas d'un problème de santé chronique, on parle de plusieurs, souvent, problèmes de santé chronique.
Oui.
Alors, c'est important d'avoir un réseau autour de nous pour nous supporter. Nous aussi, on va supporter d'autres personnes, mais il y a des personnes qui peuvent nous supporter. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir.
Et de penser que le réseau de santé est un réseau aussi, c'est-à-dire que le médecin travaille souvent avec une équipe multidisciplinaire. Ces gens-là sont aussi là pour nous aider et on pense souvent que le médecin ou... son équipe n'a pas le temps pour nous, c'est aussi de changer cette idée-là.
Tout à fait. Il faut s'affirmer, se préparer, faire connaître nos attentes, nos besoins. C'est important de prendre sa place, de se responsabiliser par rapport à ça. Puis un élément que j'ai oublié de mentionner plus tôt, mais qui est vraiment l'élément numéro un, il faut établir une relation de confiance avec son médecin, avec l'équipe de soins. Mais c'est le premier souvent qu'on va voir, hein, le médecin. Et si on n'a pas confiance, si on sent que la communication ne passe pas, qu'on n'a pas le goût de suivre le traitement qu'il nous suggère parce que ça ne nous convient pas, peut-être qu'il faut penser à changer de médecin. Ça peut être une option aussi. Dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas.
Et qu'on a le droit de poser des questions sur le traitement qui nous est suggéré. Bien sûr, ça fait partie beaucoup de l'actualité dernièrement avec ce qui s'est passé. On pense à José Blanchette, à Tout le monde en parle, sur ce qui est de la chimiothérapie, radiothérapie en cas de cancer. On peut poser des questions, tenter de comprendre. On a un libre choix aussi par rapport à
ça. Moi, ce que j'ai compris de ce discours-là, c'est que dans le fond, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. On ne veut pas des traitements pour rien. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je veux tout essayer. Même s'il y a 2 % de chances que ça fonctionne, je veux l'essayer. Ces gens-là ont le droit de l'essayer. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, j'en ai assez. Moi, j'en ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi, j'ai eu 3 traitements de chimiothérapie, j'ai un cancer du sein, et si on m'en offre un quatrième, je vais dire non. Puis c'est correct aussi. Alors, il faut se respecter. Il faut savoir quelles sont nos valeurs. Le genre de questions qu'on peut poser, j'en avais écrit quelques-unes. Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les partage.
Oui, on a encore un petit peu de temps, Francis.
Bon, alors, on peut dire, j'ai besoin de plus d'explications car ce n'est pas clair. Hein? On peut demander ça. Dois-je subir d'autres tests? Quand? Quelles sont mes options de traitement? Lesquelles recommandez-vous et pourquoi? Quels sont les taux de succès du traitement choisi pour le même type de maladie pour mon groupe d'âge? Habituellement, là, qu'est-ce que ça donne, ces traitements-là?
Mon groupe d'âge et mon genre, mon sexe.
Aussi.
Si je suis une femme, si je suis un homme.
On
peut vraiment aller dans une précision de question. Je pense qu'on a même intérêt à le faire.
Tout à fait. On peut parler des effets secondaires. Quels seront les effets secondaires habituels là, pour ce traitement-là? Quels symptômes peuvent survenir? Est-ce qu'on va m'aider avec ces symptômes-là? Est-ce qu'il y a des complications? Qui va assurer le suivi de ma situation en cas d'urgence ou en cas de besoin? Est-ce qu'il y a une personne contact qui peut m'aider à cheminer à travers tout ça?
Mm-hmm.
Alors, évidemment, au niveau des professionnels, la santé. Dans certains milieux, il y a des infirmières pivots et ces infirmières-là donnent même leur carte d'affaires aux patients qui viennent consulter et on dit en cas de besoin, appelez-moi. Alors, il y a des options.
Et on n'hésite pas à parler de nos symptômes. Je reviens avec cette médecin de famille qui parlait des mensonges souvent émis dans son cabinet. C'est sur le niveau de douleur. On doit dire on a mal de façon précise. C'est quoi nos symptômes, nos effets secondaires?
Tout à fait, tout à fait. Et même, je peux dire, vis-à-vis de la maladie grave, entre autres, des gens qui souffrent d'un cancer, quand ils commencent à avoir des symptômes et de la douleur, comme tu le mentionnes, c'est très important d'en parler. Parce qu'on peut introduire des mesures thérapeutiques pour soulager les personnes précocement. Alors, même dans certains cas, on peut parler de soins palliatifs quand on parle de maladies assez sévères, mais on peut les introduire pas seulement à la fin de la vie, là, les soins palliatifs. Maintenant, on dit qu'on doit les introduire le plus rapidement possible. Ça peut être un an avant qu'on pense que l'état va vraiment se détériorer. On le fait pour la qualité de vie de la personne, pour la rendre plus confortable, et justement éliminer tous les symptômes et la douleur.
France Cardinal Remette, c'est déjà la fin. Merci beaucoup, ça a été tellement éclairant. On rappelle, vous avez été infirmière pendant de nombreuses années, vous continuez à enseigner à de futures infirmières, donc vous étiez vraiment très bien placée pour nous parler de ce sujet-là, ça a été grandement apprécié. Merci.
Merci beaucoup.
Avouez quand même, on ne pourra plus jamais mal se préparer avant d'aller rencontrer notre médecin, que ce soit notre médecin de famille ou un spécialiste. Alors, merci beaucoup à Marianne Paquette et à France Cardinal Remette. Je vous rappelle que cette entrevue s'est donnée dans le cadre de l'émission « C'est bon pour la santé ». Je vous rappelle que vous écoutez Le National. C'est toujours Clotilde Seil qui vous accompagne au micro de Canal M et qui vous invite à rester des nôtres pour la seconde partie de cette émission dans quelques minutes. Le National, seconde partie. Merci d'être encore des nôtres ou merci peut-être de vous être joint à nous si vous venez juste d'arriver à cette émission qui vous permet d'écouter ou de réécouter des segments qui concernent tous les francophones du Canada pendant une heure de temps. Alors, nous sommes en deuxième partie de cette émission-là et ça va commencer par un segment que je connais bien puisque on l'a extrait d'une des émissions des livres plein les oreilles que j'ai la chance d'animer ici sur Canal M tous les jeudis à midi et d'ailleurs c'est en reprise le même jour à 17h. Et lors de la dernière émission, nous avons reçu Jean Brière. Jean Brière qui nous a parlé d'un coup de cœur qu'il avait eu pour un livre de Stephen King. Ce livre, c'est 22-11-63. Bonjour Jean Brière à Québec.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien?
fort bien.
Ça va bien. Bon, ben écoutez, on est dans la continuité parce qu'il y a quoi? Il y a deux ou trois semaines, on évoquait la vie de Marilyn Monroe et surtout la mort de Marilyn Monroe, directement reliée à la vie de M. John F. Kennedy. Et vous, vous nous parlez d'un livre directement relié à la mort de John F. Kennedy. Il me semble que j'ai fait bien des circonvolutions pour arriver à mon point.
Oui, mais l'important, c'est de s'y rendre.
C'est ça, exactement. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vous laisse le soin de nous présenter le titre du livre et son auteur.
Le roman s'intitule en français 22-11-63, 22 novembre 63. Ça, c'est une date fatidique dans la psyché de l'Américain moyen. C'est l'assassinat de John F. Kennedy, président des États-Unis à cette époque. Et le grand romancier Stephen King en a fait un roman en 2011. Mm-hmm. Un roman fameux.
Oui?
Oui, ah oui, tout à fait fameux. Moi, je dirais que c'est le roman qui trône toujours au sommet de mon palmarès.
C'est vrai?
Mes romans favoris de 2016.
Oh!
Ah oui, oui. Je suis pas un amateur de Stephen King, j'en ai en fait jamais lu. Je connais un peu son œuvre parce qu'il y a de ses romans aussi qui ont été adaptés au cinéma. Puis on sait qu'il fait dans le fantastique et même dans l'horreur.
Oui, plus encore, oui, c'est ça, oui.
Et là, on n'est pas là.
Pas du tout, hein?
Non, on est dans la science-fiction à saveur fantastique, mais il n'y a pas d'entité de l'au-delà.
OK. Alors, donc, il est dans la réalité, hein, dans cette journée terrible où l'on voit, la tête de John F. Kennedy atteinte et mortellement. Hein, et donc, il fait quoi? C'est une recherche de la vérité? Qu'est-ce que c'est, juste?
C'est d'abord basé sur le thème du voyage dans le temps.
Allons bon.
Alors lui, il imagine une histoire qui met en scène un Américain moyen, contemporain, là, de 2011, professeur de collège, qui, par un concours de circonstances, se voit proposer une mission très importante, celle de sauver le président Kennedy de l'assassinat. Il y a beaucoup d'explications que vous découvrirez
lisant,
là. Mais essentiellement, c'est ça. Alors, c'est sa mission. Puis lui, c'est un citoyen ordinaire, mais... une mission extraordinaire. C'est aussi l'imagination américaine là, du héros solitaire qui accomplit sa mission. C'est toujours beau. Moi, j'aime bien ça. Il fait son devoir. Et il se retrouve donc envoyé en 1958. Il doit passer 5 ans dans l'ancien temps.
Oui.
De 1958, bref, à 1963, où il doit un peu connaître les mœurs, puis on en profite justement pour visiter l'Amérique des années 60, avec ses mœurs, avec son histoire. Avec
Sa musique, tout ça.
Sa musique, exact. Ses voitures.
Oui.
ce qui gâche rien, moi qui aime beaucoup les voitures.
C'est vrai.
Oui. Alors,
donc, on est dans l'univers d'Elvis, de James Dean, si peut-être, tout ça?
Oui.
OK.
Oui. Alors, comme c'est un professeur, pour passer le temps, ben, il décide d'enseigner à cette époque-là aussi, en attendant le moment où il devra intervenir. Mm-hmm. Puis, il fait aussi en douce une enquête sur l'assassin connu de John F. Kennedy. Il fait une enquête, il fait une filature pour connaître là, les motivations de l'individu, puis à savoir s'il a agi seul, etc. etc.
Monsieur Oswald, hein? Lee Harvey.
Exactement. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Et il tente d'intervenir. Et, au travers de tout ça, c'est magnifique parce qu'on observe la société américaine avec ses mœurs, les collèges des États-Unis, et il y a aussi une splendide histoire d'amour.
Oh.
Le type tombe en amour avec une femme de l'époque,
oui.
Avec tout le questionnement puis les troubles éthiques que ça lui cause d'être en amour avec une femme de l'époque.
Mais oui, mais oui.
Puis de l'impliquer là-dedans, qu'est-ce qui se passera dans l'avenir, etc. Et c'est une très belle histoire d'amour. Et c'est enlevant. C'est un roman policier de suspense et d'aventure. On s'ennuie pas. Même s'il fait 930 pages, presque 30 heures d'écoute.
Oula!
Oui, on est toujours quand même sur le qui-vive.
C'est vrai, assis sur le bout de sa chaise, là.
Ah oui, on ne s'endort pas dans son fauteuil.
Ah non, hein? Non, c'est ça. Je lisais à un moment donné une critique qui disait que le propos, la construction, les descriptions, que tout dans ce livre respire l'intelligence.
Oui.
Hein?
Oh, je pense qu'on peut le dire. On comprend pourquoi Stephen King est le maître du suspense aux États-Unis. Je pense même partout dans le monde. C'est enlevant, c'est intéressant, il y a plein de rebondissements. C'est bien écrit, c'est bien documenté aussi, c'est rigoureux dans les faits. Là.
Et puis aussi, je lisais une autre critique que je trouvais fort bien écrite, et vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes fan du King, jetez-vous là-dessus. Vous ne connaissez pas le King, donc Stephen King, jetez-vous là-dessus. Vous n'êtes pas friand de science-fiction, ben ça tombe bien, ce roman n'en est pas vraiment un, donc jetez-vous là-dessus. Vous êtes fan de science-fiction, ce n'est peut-être pas le sujet principal, mais ça vous parlera tout de même, donc jetez-vous là-dessus. Vous aimez les longs romans, jetez-vous là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, parce que on peut avoir peur de l'horreur avec Stephen King, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Quand il veut être gore, il est gore. Hein. On s'entend. Alors, en tout cas, si vous n'en avez pas lu tellement... C'est ce qu'on dit. Moi, j'en ai lu quelques-uns, je vous avouerai, parce que je trouve qu'il y a dans la littérature de King, je pense au fléau, par exemple. Bon, tous les gens qui aiment Star Wars et compagnie, le bien, le mal. Moi, je trouve que le bien et le mal, tel qu'écrit dans son livre qui s'appelle Le fléau et que je vous recommande, mon ami, avec des moments effectivement très, très sanglants, très, très douloureux, mais en même temps, on est loin de ne faire que dans cela. Il y a c'est un roman épique et très, très intelligent sur le thème si souvent traité du bien et du mal. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose avec ce livre-là, le 22-11-63.
Oui, parce qu'il y a un questionnement philosophique qui se dessine là-dedans. Est-ce qu'on peut intervenir dans le passé et quel sera l'effet de l'intervention dans le passé sur le temps contemporain?
Et ça, je ne vous poserai pas la question parce que c'est évidemment, j'imagine, toute la fin du livre.
Et je ne vous répondrai pas.
Alors, vous êtes très gentil.
Parce que je veux que nos amis lecteurs prennent connaissance de ce livre. Bon. C'est très, très intéressant.
Bon, ben écoutez, Jean Brière à Québec, un fidèle auditeur de l'émission, mais aussi un fidèle chroniqueur qui accepte très, très volontiers de partager avec vous, avec nous, ses lectures. Il nous parlait donc ce matin du 22-11-63 de Stephen King, une brique de presque 1000 pages qui nous ramène en 1963 et même avant, quelques années avant que John Kennedy soit assassiné. Voilà. Merci beaucoup, Jean.
C'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci infiniment et passez une belle fin de journée.
Au revoir.
Au revoir. Alors, j'espère qu'on vous aura donné envie de lire ou de relire ce livre qui, comme l'a très bien expliqué M. Brière, n'est pas un livre comme ceux auxquels nous a habitués Jean Brière, un livre beaucoup plus doux, mais quand même avec cette enquête au sujet de la mort, l'assassinat, devrais-je dire, de John F. Kennedy. tous les midis sur les ondes de Canal M à 11h30. D'ailleurs, pour être plus précise, il y a moyen, grâce à l'émission Les Paractualités, de sentir battre le pouls, si j'ose dire, de l'univers, du milieu du handicap. On y apprend là toutes sortes de nouvelles, qu'elles soient montréalaises, régionales, donc qui concernent tout le Québec, ou encore nationales. Et cette semaine, j'ai envie de vous faire réentendre deux entrevues. D'abord, celle avec une globe-trotteur en fauteuil roulant. Elle s'appelle Audrey. Et j'ai été tout à fait charmée par cette personne-là, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle réalise, malgré un handicap. J'allais dire un handicap qui ne l'handicape tellement pas pour voyager. Alors, écoutez bien cette entrevue-là. Et juste après, il sera question d'un nouvel afficheur braille à prix très abordable. Et je précise à prix très abordable parce que les afficheurs braille, en principe, ça coûte très, très cher. Faut être riche, hein, pour pouvoir en avoir un à la maison. Mais là, grâce à l'Inca, eh bien, vous allez pouvoir mettre la main sur une de ces petites bêtes-là et en plus pouvoir la transporter avec vous. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que c'est exactement de ce sujet, de cette question, que nous allons traiter un petit peu plus loin dans quelques minutes. Juste avant, faites connaissance avec Audrey à l'émission Les Paractualités. Elle s'appelle Audrey Barbeau. C'est une jeune femme française d'origine et c'est une grande voyageuse. Bon, particularité, on va le dire tout de suite. D'abord, bonjour Audrey.
Bonjour.
Vous êtes en fauteuil roulant.
Oui, tout à fait.
Et un peu moins à la maison, je crois. Vous êtes capable à la maison de vous déplacer un petit peu. C'est peut-être ce qui rend vos voyages un peu plus faisables, ou est-ce que je me trompe ou j'ai lu ça quelque part?
Non, c'est bien, c'est correct.
D'accord. Oui. Alors, on ne parlera pas de courage, parce que vous détestez ce mot-là et que vous dites non, ça ne me prend pas du courage, ça me prend juste de l'envie, finalement.
Oui.
Vous avez envie de voyager et vous le faites. Et il n'y a rien qui vous arrête.
C'est un peu ça. J'essaie vraiment de... c'est ce que j'essaie vraiment de faire, oui.
Toute seule?
Le plus souvent, oui.
Jamais de peur? Et là, je ne parle pas de votre handicap, parce
que
je parle simplement du fait, et combien de fois on a entendu, moi je sais que mes parents, quand je leur disais que j'allais voyager toute seule, c'était « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Vous comprenez bien, belle, jeune et jolie comme on est. Non, mais sérieusement, Audrey?
Jamais, je dirais non. Mais il y a quelques fois, oui, il y a eu des craintes, des moments où j'étais peut-être pas très à l'aise ou ce genre de choses, mais vraiment une peur qui paralyse et non.
Non. Est-ce qu'on peut parler de votre handicap? De quoi souffrez-vous exactement? Ah, je sais qu'il ne faut pas dire souffrez-vous. Ici, en France, on le dit, mais ici, il paraît que ça ne se dit pas du tout et j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à m'enlever ce mot-là. Alors, quel est le type de handicap
Alors,
que
en fait,
vous avez?
J'ai une maladie génétique qui s'appelle Charcot-Marie-Tooth et qui fait que les muscles s'atrophient.
Okay.
Donc c'est pour ça que je marche un petit peu pour des courtes distances, comme vous l'expliquiez tout
D'accord.
à l'heure, mais qu'après j'ai un fauteuil électrique
D'accord.
à l'extérieur.
Est-ce que ça empire? Est-ce que c'est progressif?
C'est évolutif.
C'est ouais. évolutif.
Mais on peut pas. C'est vraiment du cas par cas, donc on peut pas le prédire. Qu'est-ce qui va arriver ou pas?
Ok.
Mystère.
Bon. Comment vous vivez avec ça?
Plutôt bien.
Le fait
je dirais...
de pas savoir.
J'essaie de pas trop m'en faire. Enfin, c'est comme
moi
ça.
Moi non plus, je sais pas ce qui va m'arriver demain.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Affaire à suivre.
Affaire à
bien.
Suivre, exactement. Alors, je précise que vous avez une remarquable énergie. Vous êtes très belle. Vous avez une très, très belle... Non, mais c'est vrai. Vous avez une remarquable énergie. Alors, je voudrais qu'on parle de ces voyages.
Oui.
Ça faisait longtemps que vous aviez envie de voyager comme ça. Ou ça vous est venu comme ça tout d'un coup. Vous avez eu envie de voir du pays.
Alors, ni l'un ni l'autre, je pense que j'ai toujours été assez curieuse de vous. Et j'avais l'envie de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Mais le point de départ, en fait, c'est un peu cliché, mais ça a été une rupture amoureuse. Où
okay.
j'avais besoin de prendre l'air. Et je me suis partie, en fait. C'est parti
okay.
de là.
D'accord.
Et le fait de me retrouver ailleurs, dans un nouveau pays, enfin, de plus avoir de repères,
ouais.
J'ai vraiment aimé ça. Et c'est ça, en fait, qui a été le point de départ.
C'était
okay,
où?
C'était à Londres,
à Londres.
Et à Londres et à Brighton aussi,
sur la côte.
Et ouais. Vraiment, j'ai adoré ça. Je me dis, bah, je veux continuer. Quoi.
Et vous l'avez fait.
Et je l'ai fait.
Je sais que vous vous êtes déjà, à un moment donné, exprimé, c'était par téléphone, vous étiez en Thaïlande, je crois, avec Luc Fortin, qui était animateur ici, c'est bien ça? Hein?
Oui, 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 tout à fait. Et c'était assez drôle, parce qu'en fait, il y a un grand décalage horaire, en fait. Donc moi, c'était au milieu de la nuit pour moi. Et on a bien discuté avec Luc, oui, c'était très sympa.
Est-ce que c'était... vous n'avez rien à prouver, si ce n'est à vous-même, mais vous ne faites pas ça pour prouver quoi que ce soit?
Non.
Ou est-ce que quand même il y a... OK, regardez, je suis en fauteuil roulant, mais je peux voyager.
Alors, ce n'est pas forcément pour... comment? C'est-à-dire moi.
Ouais. Oui, oui.
Mais en tout cas, montrer en tout cas que c'est possible.
C'est possible.
C'est ça.
Bien sûr. Alors, les plus beaux souvenirs, allez. Le plus beau, comme ça. Patin.
Le plus beau, c'est impossible.
Impossible.
Impossible. Mais en tout cas, en fait, les plus beaux souvenirs sont souvent liés à des rencontres que j'ai pu faire.
Oui.
Que ce soit en Thaïlande avec un grand-père chez qui j'ai logé, que j'ai absolument adoré, ou bien aux États-Unis, même ici. Enfin, peu importe, en général, les plus beaux souvenirs sont toujours liés à une rencontre.
L'accessibilité. On est obligé d'en parler parce que, bon, d'ailleurs, vous le mesurez ici même au Québec, c'est pas toujours évident.
Non.
Est-ce que vous vous êtes heurté, j'imagine que oui, quand même, à des difficultés par rapport à ça?
Oui, souvent. Enfin, je veux dire, à chaque voyage en général, enfin, c'est rare qu'il n'y ait pas
ne serait-ce
qu'un seul couac au niveau de l'accessibilité.
Mm-hmm.
Après, si je prends par exemple l'exemple du voyage que j'ai effectué l'hiver dernier en Asie,
oui.
Donc j'ai voyagé donc en Thaïlande, au Vietnam et à Hong Kong. C'est vrai que c'est les 3 mois que j'ai passé là-bas, je les ai vraiment vus en fait aussi comme un défi de dire bon ok, ça va clairement pas être accessible et pratique pour moi avec mon fauteuil, mais j'ai envie d'y aller et j'ai envie de voir comment ça se passe, comment je vais justement pouvoir me débrouiller sur place pour pouvoir voyager là-bas.
Mm-hmm. Vos parents, est-ce qu'ils sont inquiets?
Ils sont inquiets. Mais je communique avec eux.
Parce que vous avez un blog, hein?
J'ai un blog, oui.
Faut qu'on en parle de ce blog. Roulette et sac à dos, c'est génial. Quel beau titre, bravo Audrey. Alors j'imagine que grâce à ça, ben, du coup, vous communiquez, tout ça, et puis ils doivent... Mais après tout, pourquoi ils seraient plus inquiets? Parce que vous êtes en fauteuil roulant, je pense qu'il n'y a pas plus d'inquiétude.
Il faudrait leur poser la question, mais en tout cas, je pense qu'ils sont inquiets comme tout
parent. D'accord, donnez-moi leur numéro de téléphone, on va les appeler tout de suite. Et le Canada? Et le Québec, plus précisément, vous êtes, oui. c'est votre premier séjour ici?
C'est le deuxième.
C'est le deuxième?
Oui.
OK.
Je suis déjà venue une première fois, en fait, avec une équipe de Kéroul au mois de juillet.
D'accord.
Et 3 semaines après, je revenais. Donc, ce n'était pas prévu, mais non, ça me
Alors,
fait bien
Alors, vous aimez
ici.
Ça?
Oui.
Et là, vous allez rester un petit peu? Vous posez les valises ou vous repartez?
Et je repars dans pas longtemps, là.
C'est vrai?
C'est un peu la fin du séjour, je suis un peu triste.
Oh! Alors,
mais je vais revenir.
C'est vrai?
Oui.
Bon. Et vous prévoyez un autre voyage?
Et peut-être de revenir.
Vous savez que je connais une fille qui a fait ça à un moment donné, il y a 30 ans. Elle a dit, tiens, j'irai bien voir là-bas comment ça se passe. Puis elle n'est jamais repartie. Vous l'avez en face de vous. Oui. Alors, vous savez, ça vous pend peut-être au nez. Audrey Barbeau, je voudrais qu'on rappelle le titre de votre blog, parce qu'il est vraiment sympathique avec photos et tout ça. Hein. Ça s'appelle Roulette et sac à dos. Si vous voulez suivre les voyages, les périples, toutes les péripéties d'Audrey, eh bien, allez voir ce site-là, il est tout à fait charmant. Ben, à votre image, Audrey. C'est une belle rencontre et je suis ravie. C'est un peu court, mais on aurait aimé pouvoir parler de pays et d'exotisme et tout ça, mais
je reviendrai.
J'ai beaucoup de sujets d'actualité.
Allez-y.
Alors, je vous remercie infiniment d'être venue. Audrey Barbeau, merci. Je vais maintenant parler avec Sarah Rouleau, qui est consultante en communication et philanthropie pour l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles, au sujet du lancement d'un nouvel afficheur en braille qui s'appelle Orbit, qui sera maintenant disponible à la boutique de l'INCA. Bonjour, Madame Rouleau.
Bonjour.
Je suis très contente de vous parler. C'est une excellente nouvelle, ça, hein, cette Orbit, là, cet afficheur braille.
Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle.
En fait, la bonne nouvelle, si vous me le permettez, parce que ça existait déjà, mais ça coûtait très cher, hein, c'est bien ça?
Oui, exactement. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est le premier afficheur braille à prix abordable.
Oui.
Donc, normalement, les afficheurs braille pouvait coûter en moyenne 3 000 $, chiffre qui dépasse malheureusement la capacité de payer de bien des gens. Mm-hmm. Donc, le nouvel afficheur Braille Orbit 20, lui, il va être offert seulement à 499 $, ce qui est vraiment une fraction du prix.
Oui, c'est déjà un prix, mais quand même.
Oui,
mais quand
ça
même,
donne accès à la lecture et à la littératie à plusieurs personnes qui ne pouvaient pas l'avoir avant. Là.
Ah, et il sera portatif, hein?
Oui, exactement. Donc, entre autres, un des avantages, oui. C'est qu'il soit portatif. Donc, il pèse moins d'une livre.
Oui.
Il entre dans le sac d'école ou dans une bourse.
OK.
Ensuite aussi, il y a une carte SD qui va pouvoir permettre de prendre ou de consulter.
OK.
Des notes.
D'accord.
Sans avoir à être branché sur un ordinateur.
Et est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques?
Oui, bien en fait, l'afficheur Braille Orbit 20, 20 parce qu'il a 20 cellules Braille à 8 points. Donc, c'est possible de lire 20 cellules à la fois.
OK.
Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, là, un afficheur Braille, la fonction, c'est de lire pour les personnes qui vivent avec une perte de vision. C'est de lire ce qui est écrit, par exemple, sur l'ordinateur. Donc, texte s'affiche une ligne à la fois en braille. Donc, au lieu d'utiliser l'écran et tout, il est sur la plage. Et nous, c'est ça. Il y a 20 cellules braille et c'est des brailles à 8 points. Donc, c'est possible d'utiliser, par exemple, le souligné, le gras, l'italique.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques?
Oui, mais en fait... sur l'ordinateur, il peut se brancher soit par par port USB
oui.
ou par Bluetooth.
D'accord.
C'est intéressant.
Ah oui,
aussi.
Ben oui, je comprends. Pas
oui.
de fil dans les pattes, tout ça.
Oui. Et on a parlé de l'écriture, mais on a parlé de la lecture, là, les 20 cellules, mais pour l'écriture, c'est 8 touches d'entrée en braille. Donc, ça a les mêmes avantages que je disais tout à l'heure. Il est en français et en anglais, puis il lit les formats texte, le BRL, BRF, texte et PEF. Donc, pour ceux qui sont habitués,
oui, c'est
vont être heureux de pouvoir utiliser tous ces formats-là.
Vous le diffusez comment? Vous la diffusez comment, cette information-là, en ce moment?
Oui, bien nous, en fait, on est très heureux. Donc, on en a parlé sur nos médias sociaux,
oui.
on en a parlé dans nos infolettes, on en
oui.
a parlé dans les organismes qui travaillent avec des personnes qui vivent avec une perte de vision.
Mm-hmm.
On en parle à vous dans les médias,
mais
parce
oui.
que c'est sûr que c'est vraiment pour la clientèle.
Bien sûr.
C'est pas intéressant pour le grand public, mais pour la clientèle, c'est vraiment... une très bonne nouvelle.
Et dites-moi, parce qu'on se demande avec toutes ces caractéristiques-là, on se demande comment vous avez pu réaliser une telle baisse du prix finalement.
Oui, en fait, c'était ça le but. Donc,
ouais.
INCA s'est joint à une dizaine d'organisations à travers le monde, dont l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis. Et le but, c'était vraiment de développer une nouvelle technologie braille qui soit accessible au plus grand nombre. Donc, justement, de permettre de le rendre plus abordable.
D'accord.
INCA a entre autres aidé à financer la recherche et le développement, apporter son expertise. Ils ont fait des essais techniques, des tests et tout. Et notamment, là, il y a une nouvelle technologie dans la cellule braille qui permet de l'offrir là, à une fraction du prix. Donc, c'était le défi, puis on en est très fiers.
Ben oui, j'imagine. Bravo. Bravo. Ça doit représenter plusieurs années de recherche, tout ça, hein, pour mettre ça au point.
Oui, ben ça, c'est un gros projet.
Oui.
Mais c'est ça, c'était important pour nous parce que, oui, il y a la synthèse vocale,
oui.
Mais le braille est très...
Ou l'audio, ou évidemment l'audio, hein, surtout
oui,
à l'INCA aussi,
on
vous en faites, bien sûr.
Tout. Donc, ça, c'est des bonnes avancées technologiques. Puis sauf qu'il ne faut pas oublier que le braille est important pour l'alphabétisation et
oui.
l'éducation. Donc,
oui,
ça permet
exact.
Vraiment de connaître l'épellation, la
oui,
grammaire,
oui, oui, oui,
la
oui,
syntaxe
oui.
des phrases. Donc, c'était important pour nous là, de le rendre accessible, justement.
Bon. Alors, accessible comment, justement? On se le procure où?
Oui, donc... au Canada, c'est la boutique INCA est le fournisseur exclusif.
Ah bon? OK.
Donc, il faut nous contacter pour
D'accord.
pouvoir avoir accès à l'afficheur Braille Orbit. Alors, le numéro de téléphone de la boutique, c'est le 1-866-659-1843.
D'accord. Et on va le mettre sur notre site
Ben
Internet
oui,
aussi,
mais
bien
oui,
sûr.
Ça, c'est gentil. Voilà. Puis c'est ça, les premiers là, afficheurs braille devraient arriver début décembre, mais c'est possible dès maintenant de le précommander là, pour s'assurer là, d'avoir ce nouveau produit-là.
D'accord. Très, très rapidement, si on s'en va sur votre site www.inca.ca, on peut aussi vous le commander ou
oui.
pas? Très
oui.
bien.
Oui, donc vous pouvez aller sur inca.ca. Notre boutique, en ce moment, est seulement en anglais, mais on a notre boutique en ligne, mais c'est possible de
D'accord.
commander.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a toutes les informations, Mme Rouleau, et je vous en remercie beaucoup. Je vous rappelle qu'avec Mme Rouleau, je m'entretenais au sujet du lancement de ce nouvel afficheur braille qui s'appelle Orbit, disponible à la boutique de l'INCA. Toutes les infos seront relayées par le site de Canal M à canalm.visezvoix.com. Madame Rouleau, je vous souhaite une belle journée.
Ben merci, vous aussi.
Et au plaisir de vous reparler sur les ondes.
Au plaisir.
Au revoir. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à entendre ou à réentendre tous ces extraits d'émissions diffusées sur Canal M pendant la semaine. Je voudrais, si vous le voulez bien, remercier toute l'équipe qui collabore à cette émission Le National. Je pense à Anne-Laure Janson, je pense à Marianne Paquette, je pense aussi à Mathieu Tessier qui officiait en régie aujourd'hui et également à Louise Vien. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous souhaite une excellente après-midi et puis tiens, une très belle fin de semaine. Au revoir.